Des poches sous les yeux, l'interview, en partenariat avec la boîte à livres.
Ousmane Diarra, vous êtes actuellement en résidence à la Maison des Écritures de Neuville-le-Roi, donc tout proche de Tours. Vous êtes ce soir à la boîte à livres pour une rencontre avec le public autour de votre roman La Route des Clameurs, un roman qui a été publié l'année dernière chez Gallimard dans la collection Continent Noir. Alors, cette si joliment nommée Route des Clameurs est en fait la route qui mène en enfer pour les islamistes. Une route que voit en rêve, en cauchemar plutôt, un enfant après l'invasion de son pays, le Mali, par les troupes djihadistes du calife Mabu Maba. La Route des Clameurs donc raconte la guerre au Mali, envahie et détruite jusqu'à Tombouctou, au travers du regard d'un enfant. Alors un enfant particulièrement touché par cette guerre, puisqu'elle va déchirer sa propre famille, diviser le couple parental, le papa artiste, peintre et sculpteur choisissant la rébellion, quand la maman choisira plutôt de rejoindre le calife avec ses filles. Le frère aîné également s'est enrôlé dans les troupes islamistes. Alors pourquoi avoir choisi d'utiliser un enfant pour raconter cette guerre ?
Merci beaucoup pour la question. J'ai choisi l'enfant comme narrateur parce que son regard est neuf, innocent, et son verbe est poétique. Par ailleurs, si j'avais fait de son père, artiste, peintre et sculpteur, le narrateur, il n'aurait pas pu aller faire l'expérience atroce de cette guerre appelée djihad, et ensuite revenir à raconter. Ça aurait été difficile.
Vous dites que ça vous permet d'utiliser cette forme poétique, pour autant, ce que l'enfant décrit est quand même très 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 violent. Est-ce que ça vous permet pas également de dire certaines choses que vous ne pourriez pas dire ? Enfin, c'est un petit peu ce que vous venez de dire avec cet artiste peintre qui n'aurait pas pu le raconter. Mais le regard de l'enfant en dehors de la poésie, c'est également l'innocence.
Tout à fait, l'innocence. C'est l'innocence aussi que... Il faut savoir que c'est les enfants. Les enfants, la jeunesse qui se trouve menacée par ces gens-là, parce que c'est leur première cible. Quand on les prend, ils sont faciles à manipuler, à décerveler, à fanatiser. Et on peut... Quand ils les possèdent, c'est le mot, hein, possèdent leur tête, ils peuvent leur dire, allez tuer votre papa, ils sont capables de le faire. Donc le livre s'adresse, c'est une sorte d'alerte pour les jeunes. Au Mali, je leur ai dit, ce livre je l'ai écrit pour vous,
hein. Pour les enfants,
pour les jeunes, parce que c'est la jeunesse qui est victime, la première victime de ces violences là enrôlée comme chair à canon, est tuée, même si la partie qui est dans l'armée régulière est composée de jeunes. Donc c'est toujours les jeunes qui sont les victimes. Et les jeunes, c'est le futur aussi de l'humanité. Il ne faut pas qu'on laisse aux jeunes générations un monde en guerre, un monde de haine, etc. Tout ça qui m'obsède.
Vous cherchez souvent dans votre récit à mettre en relief le mensonge. Le personnage du calife, par exemple, symbolise le mensonge, puisqu'on découvre au fur et à mesure du récit qu'il n'est pas en réalité un véritable calife, hein. C'est un faux calife, ancien camarade de classe par ailleurs du père du narrateur, qui jusqu'à la guerre ne s'était pas vraiment beaucoup préoccupé du Coran ni de la religion. Qu'est-ce que vous cherchez à dire au travers de ce personnage, le faux calife?
Merci. Ce que je veux dire, c'est que même chez nous, les manipulateurs actuels de la religion, de l'islam, avant même d'arriver à la violence physique, ceux qui verbalement sont très violents, parce que on passe de la violence verbale, psychologique, à la violence physique. Cela, il n'était pas connu avant la situation actuelle. Il n'était pas connu comme étant des exégètes du Coran ou des érudits. Et pour la plupart, c'est des analphabètes, des incultes, même dans la culture musulmane. J'ai dit bien musulmane. Mais l'occasion, parce que quand... Il y a le trouble, c'est les plus les personnes les moins recommandées qui arrivent à manipuler la population, je crois que c'est ça.
Ça peut-être un petit peu aussi des opportunistes, en
fait. C'est des opportunistes, effectivement, c'est des opportunistes.
Qui se saisissent de ça pour accéder à un pouvoir qu'ils n'avaient pas jusque-là.
Tout à fait.
La figure du père est intéressante, donc artiste, peintre et sculpteur, intéressante à plusieurs titres. Donc il est vu comme un rebelle par son fils au départ, hein, puisqu'il refuse obstinément d'assister aux prêches des gamins imams, et il s'obstine à pratiquer son art envers et contre tout. Pourtant, au fur et à mesure du récit, il semble sombrer dans la maladie, une forme de maladie mentale. En tout cas, c'est un peu comme ça que son fils le voit, comme quelqu'un qui devient fou finalement. Moi, j'en suis arrivée à lui en vouloir un petit peu à ce personnage, en fait, pourquoi il s'est pas enfui au moment où il était encore temps de fuir, quand les troupes n'étaient pas encore arrivées et que là, il y avait encore moyen de sauver sa famille, de sauver son couple et d'éviter que son fils aîné parte aussi, hein, s'enrôler dans les troupes djihadistes. Pourquoi est-ce qu'il a fait ce choix de rester ? Choix, encore une fois, moi je me dis que je lui en veux un petit peu, quoi, ce papa. Est-ce que vous pouvez nous dire quelque chose là-dessus ?
Oui, mais son fils le dit d'ailleurs, c'est un nationaliste fier. Au sens positif du mot, et il n'arrête pas dans le livre de le dire, je ne quitterai pas mon pays. Mmh. Donc c'est quelqu'un qui a en tête, si tout le monde s'en va, mais c'est l'ennemi qui va gagner. Et ce que l'ennemi cherche, c'est ça, c'est pousser tout le monde à quitter ou à se soumettre. Lui, il ne voulait ni quitter, ni se soumettre. C'est pourquoi il reste. Sa façon de résister, c'est ça. Bon, son fils le prend parce que les événements, pratiquement, il c'est pas un défaitiste, mais la violence de ce qui s'est imposé au pays et lui qui se voyait aussi à travers le pays a été tellement dur qu'il fallait cette résistance à l'extrême.
Il est question d'argent dans le roman, de l'argent que distribuent les gamins imams, ainsi que vous les appelez, des nouvelles mosquées, les gamins imams à la barbichette de bouc nain, comme vous l'écrivez. D'où vient-il cet argent qui semble avoir quand même permis également l'invasion des deux tiers du pays? Comment peut-on arriver à distribuer comme ça de l'argent?
Les sommes qui circulent dans le désert malien, c'est inimaginable. C'est l'argent, j'ai dit, c'est pourquoi le personnage du calife, il s'appelle Mabou Mabadi Fifi Ransom, Qatar.
Oui.
C'est les pays du Golfe, Qatar, l'Arabie Saoudite, qui financent tout ça, construction de mosquées, fanatisation des gens, achat de la jeunesse, etc., etc. Ce sont ces pays-là. Notre pays n'était pas comme ça. Il y avait l'islam était déjà présent, mais ce n'était pas comme ça. Donc l'argent vient de là et de la drogue. C'est c'est quand la criminalité et l'autre criminalité pratiquement, qui a une apparence de légitimité, ou je ne sais pas, se conjugue pour prendre le monde en otage. C'est mon sentiment. L'argent est là, l'argent circule en pagaille dans le désert malien, dans le Nigérien, etc., chez le Libyen, etc. C'est l'argent de la drogue, c'est vrai, mais c'est financé par les pays du Golfe.
Alors sur un autre plan, donc vous parlez des troupes de soldats, les Morbidones, qui sont les troupes d'enfants soldats qui accompagnent, enfin qui mènent la guerre. C'est un aspect, je trouve, de la guerre au Mali dont on parle relativement peu. En fait, c'est jeunesse. Alors on les a évoqués tout à l'heure très très rapidement en début d'entretien. On sait relativement peu souvent que ces soldats sont quand même vraiment très jeunes, hein, quand ils pillent, brûlent, violent et tuent, ce sont des enfants. D'où viennent-ils? Comment est-ce qu'on... Où est-ce qu'on va les chercher? Est-ce qu'ils sont maliens? Est-ce qu'ils viennent d'autres pays? Comment ça se passe? Alors, vous n'êtes pas le seul auteur à en avoir parlé, hein, de ce phénomène, mais est-ce que vous pouvez nous en dire deux mots?
Ils sont ramassés, c'est dans le livre, le narrateur le dit, ramassés dans les quatre, dans les caniveaux, dans les quatre coins du monde, y compris à Mabala, qui est Bamako. Mm-hmm. Donc, c'est les enfants de Bamako, c'est les enfants du reste du monde qu'ils ont pu mettre avec eux. Mais la grosse, la majorité est composée de jeunes talibés. Talibés, c'est l'équivalent des talibans en Afghanistan, ouais. On l'oublie très souvent. Qui sont, dès le jeune âge, donnés aux marabouts par leurs parents,
ouais,
pour l'instruction coranique, qui souffrent toutes sortes de violences,
mm-hmm,
toutes sortes de violences avec ces marabouts-là. Quand les djihadistes sont venus, comme ils sont en groupe, certains marabouts, maîtres coraniques, je veux dire, ont vendu la totalité de leurs élèves à ces djihadistes-là.
Ils les ont vendus.
Ah, non, oui, oui. Ben oui.
Ouais.
Ça dit échanger contre de l'argent.
Oui.
Ça, c'est un mode de recrutement. Il y a d'autres modes de recrutement à Bamako. J'ai un neveu, je l'ai connu hein, plus tard, qu'ils ont pris à Bamako. Je dis prendre, ils ont engagé à Bamako, ils ont fait changer son extrait d'acte de naissance, ses papiers d'identité, et ils ont changé son nom de famille, le nom de sa famille, tout. Nom, prénom, toute son identité, même son lieu de naissance, village, pour lui donner une pièce d'identité,
mm-hmm,
fausse pièce d'identité, afin de le faire naître. Son lieu de naissance dans une ville du nord du pays, etc. etc. Donc il, mm-hmm, y a tout ce mode de viol,
mm-hmm, de la personnalité.
De la personnalité. Ouais. Il y a tout ça qui fait partie de leur pratique.
Et d'un point de vue plus littéraire, comment est-ce qu'on fait pour se mettre dans la peau d'un enfant ?
Sans exagération aucune, mon inspiration vient de mon enfance. Je suis beaucoup plus... En plus du fait que je travaille beaucoup avec les enfants, je suis conteur, bibliothécaire, je travaille beaucoup avec les enfants et la jeunesse. Mais je suis profondément dans... J'ai toute ma sensibilité... Ça vient de l'enfance, de mon enfance. Donc, il m'est plus facile d'adopter la voix d'un enfant, même le roman sur lequel je suis en train de travailler. Les personnages visibles, actifs, ça va être des enfants.
Okay. Là, vous êtes en ce moment en résidence, donc, à Neuville-le-Roi, pour l'écriture d'un roman. Vous pouvez déjà nous en tracer les contours ou c'est trop tôt ?
Oui, c'est trop tôt, mais pas trop tôt, puisque j'ai fait un projet de... J'avais déjà, en grande partie, écrit le roman, mais maintenant, je casse. J'étais en pleine écriture de ce roman. Quand justement ce grand malheur est arrivé, ouais, au Mali, l'occupation des deux tiers du territoire, flagellation, lapidation, ils ont coupé des mains et mettre ça sur Internet, je ne pouvais pas, ce roman que j'avais commencé, c'est un roman d'amour que j'adore, je ne pouvais pas continuer, j'étais en colère, mmh, révolté, donc... je suis revenu à ça. C'est comme je le veux, un livre, je le souhaite, un livre, un roman d'amour, d'apaisement, parce que j'ai besoin de cette douceur-là. Après, tout comme mon peuple.
Bien sûr. Est-ce que vous êtes retourné au Mali depuis ?
Mais je vis au Mali.
Oui, d'accord, parce que je pensais que vous étiez en Suisse, en fait, pendant les événements, d'après ce que j'ai lu.
Non, je suis allé en Suisse pendant un mois, en résidence, une résidence d'un mois.
D'accord. Et du coup, comment votre roman est accueilli au Mali, La Route des Clameurs ?
Bon, c'est bien accueilli par la jeunesse. Ils sont même pressés que je revienne, que je retourne au Mali, parce que j'ai mis en place des clubs de lecture, etc. Et je suis parmi ceux qui disent vertement les choses telles qu'elles sont.
Mm-hmm.
Avec la presse, je ne suis pas satisfait. Ils sont contentés de présenter le livre à la télé,
ouais,
sans commentaire. Tous les organes, que presse privée...
Et public.
Le public ont reçu un exemplaire directement de Gallimard.
Mmh. Pas un seul n'a pris contact avec vous.
À part une chaîne privée qui est venue m'interviewer deux fois.
Mmh.
Même là, j'ai revu sur Internet. La première interview, deuxième, ils l'ont censuré.
Ah oui, d'accord. Oui.
J'ai écrit au directeur de... Envoie un mail au directeur.
Ouais.
Quand est-ce que c'est passé? J'ai vu que ça a été censuré. Première interview, c'est un débat plutôt avec d'autres. C'est ça que j'ai vu sur Internet. Sinon, les autres, je pense qu'ils les ont censurés.
Écoutez, je vous remercie beaucoup de nous avoir accordé ces quelques minutes d'entretien. On peut vous retrouver pour des événements publics, là, je pense, au mois de novembre, dans le cadre de cette résidence. Le programme est accessible sur le site de la Maison d'écriture, en tout cas sur le site de Cyclic. Je sais que le programme est parfaitement détaillé, donc soit dans la région de Neuville-le-Roi, et puis il y aura également des événements à Jouy-les-Tours, ou en tout cas plus proche de Tours. Merci beaucoup, je vous laisse rejoindre vos lecteurs pour évoquer avec eux la route des clameurs.
Merci beaucoup,
Ousmane Diarra.
C'était l'interview des poches sous les yeux en partenariat avec la boîte à livres. Retrouvez cette interview sur radiobeton.com, despochessousleyeux.fr ou encore la page Facebook des poches sous les yeux.